Les flammes progressent à une vitesse folle. Dans l'Aude, près de 12 000 hectares, 13 000 même maintenant déjà partis en fumée. Une personne est morte. Nous serons sur place dans ce journal, dans l'une des communes les plus touchées par le feu. Un feu qui se propage rapidement parce que le vent est fort, parce que les températures sont élevées, mais aussi parce que les vignes, ces pare-feux naturels, ont été arrachées. On vous explique. À Gaza, l'idée d'une possible occupation totale du territoire par Israël gagne du terrain. Une idée qui ne plaît pas vraiment au chef d'état-major israélien, mais il devra exécuter les décisions, lui rétorque le gouvernement. Et puis lui fait peur aux militantes pro-IVG. En Pologne, le nouveau président conservateur, Karol Nawrocki, vient officiellement d'être investi et sa position sur l'avortement les inquiète. C'est l'incendie le plus gros de l'été et il est loin d'être maîtrisé. Dans l'Aude, le feu qui a pris hier vers 16h entre Narbonne et Carcassonne a déjà parcouru 13 000 hectares dans le massif des Corbières. Pour vous donner une idée de la surface brûlée, c'est plus que l'équivalent de la taille de Paris. Un incendie qui a fait un mort dans la commune la plus touchée, Saint-Laurent de Cabréris. Une femme âgée qui, a priori, n'a pas voulu quitter son domicile. Une autre commune lutte aussi contre les flammes, c'est celle de Fabrezan. Erwan Chassin s'est rendu sur place et le balai aérien se poursuit.
Oui, dès que le jour s'est levé, le balai aérien a repris. Quatre Canadair notamment passent et repassent au-dessus de nos têtes. Il semblerait que pour l'instant ce ne soit que des vols de reconnaissance, pas de largage d'eau ou de retardant. Mais le feu, lui, progresse bel et bien toujours, plus doucement que ce matin tôt, c'est vrai. Mais on le voit bien grignoter le sous-bois de la forêt de pins où nous sommes. Et selon la préfecture, les conditions météo restent très défavorables aujourd'hui. Vent et sécheresse de la végétation compliquent beaucoup le travail des pompiers, constate Jean-Christophe Pézra, chef de sapeurs-pompiers venu de l'Hérault en renfort.
En fait, on se rendait compte qu'il y avait des sautes de feu de 300-400 mètres. Là, ce qui est étonnant, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de feu comme ça. On le voit depuis le début de l'été, aussi bien l'Aude que l'Hérault. On a un phénomène de sécheresse accompagné avec beaucoup de vent cet été. Et là, ben, on a les deux qui sont réunis.
Et selon lui, le travail va encore être long.
On a vu toute la nuit l'ampleur avec la lueur. On le voit encore mieux la nuit, c'est sûr. Il y a de nombreux points et foyers à traiter. Il va y avoir du travail pendant plusieurs jours, c'est certain, vu la superficie de tout ce qui a brûlé malheureusement dans l'Aude.
Un incendie majeur qui a fait au moins une victime, une femme restée dans sa maison cette nuit, morte dans la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabreris, commune que l'on a aperçue ce matin très tôt, entourée de flammes. Là-bas, une autre personne est d'ailleurs portée disparue. C'est de là que vient Alix, qui a dû évacuer à la hâte hier soir.
Nous, on est dans un domaine viticole à l'entrée de Saint-Laurent-de-la-Cabreris. On a fait évacuer les enfants, voilà, les amis. Nous, on est restés jusqu'au dernier moment avec ma mère, ma sœur. Et après, les gendarmes, vers 21h, 21h30, nous ont demandé de quitter les lieux.
Et la préfecture insiste encore, les personnes évacuées ne doivent absolument pas tenter de rentrer chez elles pour le moment.
Erwan Chassin pour France Culture. On ajoute que 7 pompiers sont légèrement blessés. Parmi les civils, 2 personnes hospitalisées, dont une en urgence absolue. Face aux dégâts provoqués par les flammes, le Premier ministre François Bayrou et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau se rendront dans l'Aude cet après-midi. Ils devraient arriver sur place vers 16h. Plus de 1800 pompiers luttent toujours à l'heure où on se parle contre les flammes, aidés par 4 Canadair, 2 Dash, un hélicoptère bombardier d'eau. Mais le travail est titanesque car le feu se propage très rapidement. En cause, le vent très fort, les températures élevées, mais aussi la disparition de milliers d'hectares de vignes. Raphaël Ben Abdelmoumen, bonjour.
Bonjour.
Les vignes, ces coupe-feux naturels, sauf que dans l'Aude, eh bien 5000 hectares d'entre elles ont été arrachés cette année.
Oui, l'Aude est même le département qui a le plus contribué au plan national de réduction viticole cet hiver. 8% du vignoble a disparu et on paye aujourd'hui les conséquences des arrachages de vignes des 15-20 dernières années, selon Franck Saillant. Il est viticulteur et secrétaire général du syndicat des vignerons de l'Aude.
Quand vous arrachez une vigne, c'est la friche qui pousse derrière, et la friche, c'est le carburant de l'incendie. Donc ça a vraiment un effet, aujourd'hui, on le paye. Il y a 20 ans qu'on le dit, au pouvoir public, et malheureusement, aujourd'hui, nos prédictions s'avèrent réelles.
Et puis en plus d'offrir une zone tampon pour freiner les flammes, les propriétés de la vigne la rendent naturellement plus résistante aux incendies.
C'est une espèce, contrairement aux pins ou aux oliviers, qui a déjà beaucoup de sève, et donc ça évite que ça prenne feu. Et quand vous prenez des photos aériennes, que vous voyez les étendues calcinées, les seuls points verts que vous voyez, ce sont des vignes. C'est une espèce qui ne brûle pas et qui a vraiment un rôle très important de coupe-feu. C'est notre meilleur canadair.
Malgré cela, un nouveau plan d'arrachage de vignes est prévu cette année à cause de la crise économique que traverse le secteur du vin et de la sécheresse qui frappe durement le Roussillon. Mais pour Franck Saillant, les incendies de l'été sont la preuve que ce n'est pas la solution.
Ce que nous demandons, c'est une prise de conscience des pouvoirs publics pour maintenir justement dans ces zones sèches de la viticulture et des aides compensatoires qui coûteraient bien moins cher que les incendies que l'on connaît aujourd'hui, qui vont avoir un coût monstrueux sur les finances, mais sans parler de l'écologie, de la biodiversité et tout ça.
Et pour les viticulteurs, c'est la double peine. L'incendie n'est pas encore éteint, que certains savent déjà qu'ils n'auront pas ou peu de production cette année.
Les précisions de Raphaël Ben Abdelmoumen. Ces incendies, mais aussi ces orages et ces inondations, eh bien ça coûte cher. Les catastrophes naturelles ont déjà engendré 116 milliards d'euros de pertes économiques au niveau mondial cette année. C'est quasiment 10 milliards de plus que par rapport à la même période l'an dernier. Les dommages gonflés notamment par les incendies de Los Angeles et les orages sévères aux États-Unis ont notamment fait grimper la facture. Depuis plusieurs jours, la presse israélienne se fait l'écho d'un projet d'occupation de tout le territoire palestinien par Israël. En effet, le Premier ministre israélien a annoncé préparer, je cite, des instructions sur la poursuite de la guerre, laissant craindre un projet d'occupation totale de la bande de Gaza. Mais la presse israélienne se fait l'écho aussi des réserves, voire de l'opposition du chef de l'état-major à un tel projet. Eh bien ça provoque la colère du gouvernement. Le chef de l'armée devra exécuter les décision du gouvernement, précise ce matin, cinglant le ministre de la Défense israélien. Explication de Claude Guibal.
Hier soir, Benjamin Netanyahou a demandé à son chef d'état-major de lui présenter les options pour la poursuite des opérations. La poursuite, c'est-à-dire l'extension du combat sur le reste du territoire gazaoui, déjà contrôlé à 75% par Tsahal. Ce qui reste, ce sont les zones où les otages pourraient être détenus. En lançant cette nouvelle offensive militaire en mai dernier, le ministre de la Défense israélien avait précisé son but, neutraliser le Hamas, déplacer la population civile vers le sud, prendre le contrôle du territoire et conquérir Gaza, le rêve de la frange d'extrême droite de la coalition qui maintient Benjamin Netanyahou au pouvoir. Or, occuper Gaza ne garantit en rien de récupérer la vingtaine d'otages qui seraient encore en vie et de nombreux officiers le font savoir, cette occupation serait intenable sur cette terre détruite. Piégée partout avec sa population ravagée par la faim, il faudrait des milliers de soldats pour gérer ce territoire en guérilla. Or, la guerre a épuisé les troupes, physiquement, moralement. Des réservistes disent ne plus vouloir retourner au front. Les objectifs initiaux de la guerre ont été atteints. Le Hamas n'est plus une menace stratégique pour nous, disent des centaines de hauts responsables sécuritaires israéliens qui ont écrit à Donald Trump pour lui demander de l'aide.
Et ce matin, la défense civile de Gaza assure que 20 personnes sont mortes dans l'accident d'un camion qui transportait des vivres. Le camion s'est retourné dans la foule alors que des centaines de civils attendaient de l'aide alimentaire dans le centre de la bande de Gaza. L'homme de main de Donald Trump, envoyé pour les missions paix reçues en ce moment même au Kremlin, Steve Witkoff, vient à Moscou rencontrer des dirigeants russes deux jours avant l'expiration de l'ultimatum posé par le président américain pour que la Russie arrête la guerre en Ukraine. Mais il sera aussi question aujourd'hui de normalisation de la relation bilatérale à Moscou. Jean-Didier Revoit.
Vladimir Poutine a accueilli Steve Witkoff au Kremlin à la mi-journée pour des négociations cruciales. Il s'agit pour la Russie d'éviter que Donald Trump n'impose des droits de douane élevés sur les produits qu'exportent aux États-Unis les partenaires commerciaux de la Russie avant vendredi, date butoir fixée par le président américain pour faire taire les canons en Ukraine. Les premiers pays visés par ces sanctions sont l'Inde et la Chine, qui sont d'importants acheteurs d'hydrocarbures russes depuis le début du conflit entre Moscou et Kiev. En plus du volet ukrainien, les deux hommes doivent aborder la normalisation des relations bilatérales entre Moscou et Washington, initiée depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais de lourdes incertitudes subsistent. Steve Witkoff a déjà rencontré le président russe à plusieurs reprises, sans jamais parvenir à infléchir ses objectifs dans le conflit ukrainien. Et nombreux sont ceux qui se demandent si la menace de sanctions brandie par Donald Trump parviendra à faire changer de cap le président russe.
Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle Washington à renforcer la pression sur la Russie pendant cette visite de l'émissaire américain. Les droits droits de douane de 50%, justement, ceux visant les produits brésiliens, eh bien, ils sont entrés en vigueur aujourd'hui, 7 jours après la signature du décret par le président américain. Donald Trump reproche à la justice brésilienne de poursuivre l'ex-président Jair Bolsonaro, son allié, accusé d'une tentative de coup d'État après sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2022. Il vient de devenir officiellement le nouveau président de la Pologne. L'ancien historien conservateur Karol Nawrocki a prononcé ce matin son discours d'investiture. Il a promis notamment d'être la voix du peuple polonais. Nous devons combattre ceux qui poussent la nation vers le déclin et la dégradation. Voici ce qu'il a dit. Connu pour ses positions conservatrices et nationalistes, son arrivée au pouvoir est un coup dur pour les militantes féministes du pays. Son droit de veto lui permettra notamment de bloquer toute avancée sur le droit à l'IVG dans ce pays où l'avortement n'est autorisé que pour les grossesses issues d'un viol, d'un inceste ou si la vie de la mère est en danger. Adrien Sarlat a rencontré ses militantes à Varsovie dans le tout premier centre d'avortement du pays qu'elles ont ouvert au printemps dernier.
2 ans après avoir dû traverser la frontière tchèque pour aller avorter, Marta a pris l'élection de Karol Nawrocki comme un coup de massue.
Le lendemain de l'élection, j'avais des impératifs à la fac, mais j'ai tout annulé. J'expliquais que je ne pouvais pas sortir de chez moi car je n'arrivais pas à gérer mes émotions.
Comme tout le monde ici, elle sait que le nouveau président opposera son veto à toute tentative de libéraliser l'accès à l'IVG en Pologne ces 5 prochaines années. Et la cofondatrice du centre, Natalia Broniarczyk, n'est pas optimiste.
On sait que Nawrocki est un opposant à l'avortement, il le dit lui-même. Alors on est déjà sûr à 100% qu'il n'y aura pas de décriminalisation de l'IVG et qu'il ne sera pas retiré du code pénal. Je pense qu'on doit se préparer au pire, car c'est un président plus proche de l'extrême droite que le précédent.
Mais sa collègue, Emilia, espère que l'arrivée au pouvoir de ce nouveau chef de l'État conservateur permettra au moins d'alerter sur la situation des Polonaises à l'international.
Notre fondation ne reçoit plus de dons et on a perdu beaucoup d'argent. Car les ONG et les autres pays pensent qu'on a un gouvernement libéral avec Donald Tusk. Et bien maintenant, on a la confirmation que ce n'est pas le cas et j'espère que ça jouera en notre faveur. Il y a de l'inquiétude, on a des raisons d'avoir peur, mais pas de quoi arrêter notre activité.
Chaque année, leur collectif aide 47 000 femmes à accéder à l'IVG en Pologne, tandis que le gouvernement ne recense que 800 avortements dans les hôpitaux du pays.
Adrien Sarlat à Varsovie. Quand les hôtels attaquent un géant des plateformes de réservation, près de 10 000 hôteliers européens attaquent en justice le site Booking, en cause, selon eux, des pratiques tarifaires abusives. Ces professionnels estiment que Booking les empêche de proposer de meilleurs prix sur d'autres plateformes ou sur leur site personnel. Bonjour Valentin Gris.
Bonjour.
En France, ces clauses n'existent plus, mais la situation des hôteliers ne s'est pas arrangée et n'est pas meilleure en tout cas pour autant.
Non, car la France, à l'inverse d'une bonne partie des marchés européens de Booking, a pris des mesures très tôt. Dès 2015, la loi Macron interdit ces clauses de parité tarifaire que vous avez mentionnées. Problème, Booking contourne très vite la réglementation. Véronique Sigel est la présidente nationale de la branche hôtellerie de l'UMI, une fédération du secteur.
Les différents avocats qui se sont penchés sur le sujet et d'ailleurs l'autorité de la concurrence ont remis en cause certaines clauses, on va dire, qui contournent en réalité cette loi Macron et qui mettent en œuvre un système de promotion et de programmes spécifiques qui amènent les mêmes contraintes aux hôteliers.
Booking facture l'adhésion à des programmes de fidélité, fait varier ses commissions pour rester toujours moins cher. Le groupe peut prélever jusqu'à 23% du prix de la nuitée, le triple d'une agence de voyage traditionnelle. Mais les embûches se multiplient désormais car outre la plainte européenne et néerlandaise que vous avez citée, Booking a été condamné à Bruxelles, en Italie, en Espagne et en France. La répression des fraudes presse désormais Booking de réécrire ses conditions générales d'ici janvier, sous peine d'amendes lourdes. Selon nos informations, un cabinet d'avocats parisien va aussi entamer une autre action collective d'ici la fin de l'année et auprès du tribunal de commerce de Paris. Elle regroupe déjà 300 plaignants. Booking explique de son côté réfuter les conclusions des différentes autorités de concurrence, mais collaborer avec la répression des fraudes pour, et je cite, dissiper les préoccupations.
Valentin Gris, service économie de France Culture. Et puis à Paris, il ils comptent bien camper devant la mairie jusqu'à ce que l'État leur propose des solutions d'hébergement. Cette nuit, près de 230 personnes sans abri ont dormi devant l'hôtel de ville, accompagnées par l'association Utopia 56. Ces familles, avec des femmes enceintes et près de 80 enfants, demandent à l'État d'agir pour leur trouver des solutions d'hébergement d'urgence. Les places se faisant de plus en plus rares. Chaque soir, plusieurs d'entre eux sont contraints de dormir dehors. Et puis on termine ce journal par un mot de météo. Le ciel s'éclaircit largement cet après-midi sur toute la France. Jusqu'à 24 degrés dans le nord de la Bretagne, le long des côtes de la Manche, 25 dans le Grand Est, 34 dans le Sud-Ouest et il va faire jusqu'à 36 près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé avec Julien Loquet.